Merci beaucoup. Oui, le collectif de chercheurs, on a choisi Kafka quand on a commencé à étudier en 2002-2003 des d'obscurs titres financiers qui ont eu une certaine notoriété en 2007-2008. Mais on a commencé à regarder ça, nous autres, en 2002-2003. On s'intéressait à l'endettement des ménages, beaucoup. C'était une priorité de recherche à l'époque. Et en même temps, je m'étais intéressé à la titrisation de certaines créances dès les années 99-2000. Et on a commencé à faire le lien entre les deux processus. Et c'est là où on s'est dit, on va se donner un nom qui est le reflet de notre objet. Comme on est un objet kafkaïen, eh bien, on a décidé de trouver une façon de transformer Kafka en acronyme pour un groupe de recherche ou un collectif de recherche, puisque c'est plutôt sur le mode collectif qu'on travaille. Mes notes sont là. Je vais donc vous entretenir pour à peu près une heure sur la question de l'austérité. C'est une discussion que j'ai depuis maintenant 3 ans. Puis bon, ça progresse et ça change à mesure qu'on avance. En fait, si j'acceptais le discours gouvernemental, je vous dirais que j'ai rien à dire, puis on va vous parler de prospérité. Hein? C'est fini l'austérité, on n'en parle plus, on a trouvé un mot qui finit en « et » qui remplace l'autre. Mais je crois qu'on peut continuer à en parler. Je crois que le contexte qui a été établi dans les 2 dernières années de politique provinciale, de politique budgétaire et financière et politique économique, cadre un peu la trajectoire dans laquelle le Québec va être pris pour les années à venir. On a fait des choses très importantes qui sont venues changer la donne au Québec et je vais essayer avec vous d'identifier certaines de ces choses. Mais l'austérité n'est pas juste une réalité québécoise. Il y a eu un tournant vers l'austérité en 2010 qui a été entrepris à travers l'ensemble des grandes économies développées. Moindrement dans les économies émergentes, mais en tout cas, sur le continent européen et en Amérique du Nord, ça a été quelque chose qui a marqué de manière décisive la trajectoire des États et des économies et qui continue à avoir un impact très important. Le gouvernement Cameron au Royaume-Uni a été élu dernièrement sur un programme d'austérité. On sait qu'en Europe, ça continue d'être un enjeu extrêmement important. Et donc, on peut dire que notre contexte d'économie politique est marqué par une logique austéritaire. C'est quelque chose qui marque l'entièreté de la trajectoire des économies avancées. Et je pense qu'il y a un lien entre ces politiques et le ralentissement économique auquel on assiste là en temps réel. Là. Yellen, qui est la Réserve fédérale hier, annonçait que les perspectives de croissance pour l'économie américaine étaient en deçà de ses attentes. Mais on peut dire que ce type de discours-là, de dire que les perspectives de croissance sont en deçà de nos attentes, on entend ça depuis 2010. À chaque 6 mois, il y a une autorité monétaire ou une agence internationale comme le FMI ou la Banque mondiale ou l'OCDE ou un gouverneur d'une banque centrale quelque part, soit à la Banque centrale européenne, Banque du Canada, ou à la Réserve fédérale, qui nous dit « Ah, bien finalement, les perspectives de croissance sont en deçà de ce qu'on avait prévu. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelques personnes qui font des modèles et qui se posent des questions sur la qualité de leur modèle prévisionnel, parce que ce n'est pas normal là, que depuis 2010, ça fait 6 ans, qu'on rate la coche systématiquement à chaque trimestre. Mais bon, le plus drôle, c'est les modèles du gouvernement du Québec. J'ai hâte de voir le prochain budget. Normalement, ils sont à peu près 0,2% plus haut à chaque nouveau budget. Là, ils prévoient pour le trimestre qui va... Donc, ils se trompent systématiquement. On est même rendu entre nous qu'on s'est fait un petit diagramme où on retrace l'erreur budget après budget. Puis bon, on fait ça entre nous, entre économistes progressistes. Bref, c'est une conjoncture, l'austérité, qui est à la fois de type économique et, je dirais, de type sociopolitique. Ça a des incidences aux deux niveaux. Et je crois que ça s'inscrit dans quelque chose de plus large. Ça s'inscrit dans une phase de ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme, que je vais essayer de définir de manière, je dirais, pas scientifique, mais au moins d'une manière conceptuelle. Je ne vais pas m'en tenir à un slogan. Je vais essayer de donner un peu de chair autour de l'os de ce concept. Et donc, ce que je vais faire avec vous dans les 50 minutes que j'ai, c'est de regarder ce que ça veut dire pour le Québec, mais un peu à rebours, parce que puisqu'on est maintenant à l'ère de la prospérité, on va faire un peu un bilan de ce qui a été accompli, Et après, on va essayer de se poser la question, mais pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce qui a été accompli? À quel prix? Je vais partir de mes notes, là. J'ai un gros tapon de papier là, mais j'ai ramassé ça dans quelque chose de plus synthétique. Qu'est-ce qui a été accompli? À quel prix? Deuxième point. Troisième point, pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce qui nous a amené à faire ça? Deux lectures. Je vais prendre le discours gouvernemental. Je vais le répéter très rapidement. On le connaît par cœur. C'est une belle cassette qu'on est capable de résumer rapidement. Et après, je vais essayer de donner une autre explication de ce qui s'est passé en tenant compte maintenant, en sortant un peu du cadre québécois. Quand même, on va rester au Québec, mais après ça, on va sortir et on va dire, oui, mais tout le monde a embarqué dans le même bateau en même temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé en 2010 au Canada, au G20, quand on a reçu tous les leaders du G20 pour que tout le monde attrape la même grippe? Puis qu'on passe de politique de stimulation économique à politique d'austérité. Tout le monde a fait ça en même temps en 2010. Et quel avenir pour l'austérité ou quel avenir dans l'austérité? Dernière question, dernier point. Donc, quatre points. Et là, revenir au Québec un peu. Et dans lequel avenir, bien évidemment, je vais essayer de poser la question des alternatives, de la manière d'en sortir. Peut-être qu'on en est sorti, peut-être que notre lutte, nos contestations doivent être ailleurs. Ça viendra dans la discussion, je crois. Mais en tout cas, un peu quel avenir pour l'austérité? Peut-être un dernier commentaire. Avant d'embarquer dans le vif du sujet, un dernier élément. Quand je parle d'austérité, de conjoncture économique, j'ai la réputation d'être un peu déprimant, je m'en excuse. Je ménage pas le monde, puis je ménage pas la situation, elle est telle qu'elle est, puis je la livre telle que moi je la comprends. Alors, je suis désolé si ça peut m'en être pesant et lourd, mais bon, c'est ma lecture. En même temps, je pense que c'est important d'avoir un peu de regarder de manière un peu désabusée, un peu avec froideur la conjoncture dans laquelle on se retrouve. Qu'est-ce qui a été accompli? Ce qui a été accompli, je dirais, par ces politiques, c'est on va avoir un budget équilibré. On devrait en être, pour certains, très fiers. C'est-à-dire que sur le plan quantitatif, le gouvernement réussit dans une situation où la croissance économique est extrêmement faible, à présenter un budget que lui considère comme équilibré, c'est-à-dire où les revenus et les dépenses s'accordent. Lui considère que ce budget est équilibré, parce que les revenus et les dépenses s'accordent au Québec depuis au moins 18 mois, peut-être même 2 ans et demi si on se force un peu, dans la mesure où le déficit qu'on avait était extrêmement léger, et était uniquement causé par la somme d'argent qu'on versait dans le fonds des générations. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi le fonds des générations? Oui, c'est un fonds prévu par le gouvernement du Québec pour un jour faire des paiements pour rembourser la dette. Un jour. Et le raisonnement fonds des générations, c'est qu'à mesure qu'on connaît la croissance économique, on va ponctionner cette croissance aujourd'hui pour mettre de l'argent de côté, pour plus tard pouvoir diminuer le fardeau de la dette sur les générations futures, puisqu'on a abusé en empruntant de manière démesurée dans les années 80-90, là, c'est le temps de faire pénitence et donc de s'enlever des moyens en plaçant de l'argent qui rapporte presque rien pour un jour pouvoir faire des remboursements à la dette. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la belle analyse que Pierre Fortin a faite de la rentabilité, et on a fait aussi une étude à l'IRIS sur la rentabilité présumée du Fonds des générations. Si on prenait l'argent aujourd'hui, puis on s'en servait pour dépenser, ça aurait plus d'impact sur le niveau de l'endettement, c'est-à-dire que ça diminuerait la dette, que c'est de l'argent qu'on garage par la fenêtre. Mais bon. Donc, ça fait de 18 mois à 24 mois qu'on est en équilibre budgétaire. Mais le versement qu'on fait au Fonds des générations nous a maintenus dans une situation déficitaire, mais minime, là. Hein, c'est moins de 1 % du PIB. Là. C'était tout petit, notre déficit du Québec. Comparé à l'Ontario, comparé à ce qui s'en vient pour l'Alberta, d'ailleurs, on avait parmi les plus petits déficits de la Fédération canadienne. Et dans le G20, on était vraiment là, dans les économies qui étaient dans le moins de troubles. Mais bon. Alors, on a donc atteint cet équilibre budgétaire. Ça, c'est l'objectif quantitatif. Sur le plan qualitatif, le gouvernement a atteint, je pense, un certain nombre de résultats recherchés. J'en vois trois importants pour eux et qu'on doit prendre acte, nous, pour comprendre un peu comment, dans quel contexte on va se retrouver. La première chose, c'est que le gouvernement a réussi à conflictualiser les débats de société au Québec. Hein, depuis 2012, la façon dont on règle nos problèmes au Québec, c'est en sortant dans la rue. On a conflictualisé les enjeux en créant des ouais, c'est ça. Ça a été le premier objectif. On est passé d'une gouvernance par la concertation à une gouvernance par la conflictualisation. Deuxième objectif atteint, le gouvernement a réussi à complètement déplacer ses alliances sociales, que ce soit je parle du Parti libéral en particulier, en fait, à recréer une alliance très particulière qui lie ensemble les élus du monde municipal, une frange du patronat rattachée au conseil du patronat en particulier, mais qui marginalise une partie des chambres de commerce. Et c'est à peu près tout. Puis il a réussi à se mettre tout le reste du Québec à dos. Mais il n'y a pas besoin, on dirait, des autres pour gouverner, parce qu'il peut s'adosser sur ce que lui appelle l'opinion publique. Mais ça, c'est nouveau. Tous les gouvernements libéraux ou péquistes auparavant avaient toujours des assises sociales beaucoup plus larges. Le PQ, c'était évidemment des assises très importantes dans le mouvement syndical. Mais les libéraux avaient aussi des assises dans les chambres de commerce locales, dans certains syndicats. Il y avait des assises dans le monde municipal. Mais là, c'est vraiment un repositionnement, une alliance très particulière. Les interlocuteurs du gouvernement provincial sont peu, mais sont très proches. Alors ça, c'est le deuxième. Et ils se reconnaissent entre eux. Hein? On voit très bien là, le par exemple, je donne un petit exemple anodin, je vais parler de mon député, Pierre Paradis, j'étais à Sutton, moi, dans les cantons de l'Est. Pierre Paradis qui est allé annoncer devant une nouvelle organisation qui s'appelle le Conseil des entreprises agricoles, qui est allé annoncer la fin du monopole de l'UPA sur la représentation syndicale dans le monde agricole. Et il est allé annoncer ça devant ceux qui veulent, à toute fin pratique, mettre fin à ce monopole-là, et ce n'est pas l'Union paysanne. C'est d'autres genres de producteurs, c'est des producteurs intégrés, des producteurs qui sont des très grandes entreprises. Donc, nouveaux interlocuteurs. Même chose si on étudie un peu comment l'arrangement s'est fait autour de Rond-Nord. La même chose si on étudie un peu comment s'est fait les arrangements autour de Bombardier, on voit qu'on a une nouvelle logique qui est très différente en termes de gouvernance qu'on avait auparavant. Donc, une alliance très particulière. Finalement, troisième objectif, une très grande centralisation, comme on n'a pas connu depuis très longtemps. J'ai discuté avec un collègue, Vincent Van Schendel, qui étudie la gouvernance économique au Québec depuis, lui, il suit ça depuis les années, milieu des années 80, puis on a fait ensemble un petit exercice de tout faire une rétrospective depuis les années 60. Comment, à partir des années 60, on a construit des outils de concertation sur une base régionale. Comment que les régions, que les municipalités ont graduellement acquis une forme d'autonomie ou un sentiment, en tout cas, qu'ils avaient une autonomie dans leur gouvernance économique. Et ce qui est fascinant, c'est de voir la vitesse à laquelle tout ça est tombé comme un château de cartes. Et là, on se ramasse avec Québec qui prend les décisions et qui délègue directement sans qu'il y ait ces intermédiaires, ces lieux de concertation auxquels on s'est habitué. Donc, c'est un gouvernement extrêmement centralisateur. Des fois, c'est la 3, 4, et pour le meilleur et pour le pire. Ça permet, par exemple, à Couillard de dire aujourd'hui, bien, écoutez, Anticosti, c'est fini, on n'en parle plus. On peut se réjouir que c'est fini, Anticosti, mais c'est une décision quand même centralisée. Il y a un processus de consultation qui vient de s'arrêter, qui n'est plus bon à rien, qui se fait un peu dans le vide, puisque le premier ministre décide que ça ne se fait pas. Donc, c'est une nouvelle forme de gouvernance, avec conflictualisation, alliance très, très restreinte et centralisation. Quatrième objectif atteint, et là, je vais prendre les mots d'un C'était un animateur des réunions à Gaspésie où j'étais allé pour parler de l'austérité. Et c'était quelqu'un qui fait du slam et il y avait une expression. Bon, c'est un Acadien aussi, donc pour lui, il parlait de la grande désorganisation. Je trouvais ça, après le grand dérangement. Et c'est vrai qu'en Gaspésie, c'était l'année passée, c'est comme ça que les gens se sentaient. Tu as un projet d'accompagnement d'un groupe communautaire qui veut évoluer, tu te tournes vers qui? Tu as une petite entreprise qui veut démarrer, c'est qui t'appelle? Tu as une communauté qui vit une crise autour de je ne sais pas quel problème social, avec qui tu fais affaire? Tu travailles dans un CLSC ou dans une clinique, dans un CHSLD, avec qui tu... On ne sait plus vers qui se tourner. Les organisations mises en place sont en restructuration permanente et on ne comprend plus à qui on doit s'adresser ni comment ça fonctionne. Donc, une grande désorganisation et dans ce contexte-là, des réformes très rapides, dont la dernière, celle qui s'en vient, je parle pour la santé, dont la dernière que le ministre Barrette nous a annoncée la semaine passée, qui est une nouvelle façon de calculer les coûts, qui va permettre, comme il le dit, je le cite, d'introduire un élément de concurrence entre les établissements. Hein, c'est ça son objectif, donc la concurrence par la compression des coûts. Donc, on voit qu'on est, la grande désorganisation permet de transformer, d'amener des transformations très profondes dans la façon dont le gouvernement fonctionne au Québec, dans la façon dont l'État est construit et dans la façon dont nos organisations publiques et privées fonctionnent. Donc ça, je dirais, c'est pas des effets, c'est plutôt des objectifs. Je crois que c'est quelque chose qui est voulu, cette centralisation, cette conflictualisation, ce repositionnement et cette grande désorganisation. Ça a, après ça, des impacts. Et on va passer maintenant donc des objectifs. Qu'est-ce qui a été accompli? À quel prix ça a été accompli? Pierre Fortin calcule que la politique d'austérité des deux dernières années a enlevé par année 1%, 1 point de PIB. Carrément, ça nous a coûté 1 point de croissance. Moi, j'ai fait un calcul entre ce qu'on appelle le PIB potentiel et le PIB réel pour le Québec. Donc, j'aime pas les PowerPoints parce que je me mets à discuter avec, puis j'oublie que j'ai du monde autour de moi. Donc, imaginez une grande courbe. Non, mais c'est vrai. On a une croissance qui monte, puis whoop, on a une crise, une récession. Puis là, ben, normalement, ça fait un beau U. Hein, en 90, c'était ça pour ceux qui l'ont vécu. Puis en 80, ça a été plus long, là, ça a été plus dur. C'est un U avec un plancher très long, mais à un moment donné, whoop, on rattrape, puis on repart. En 90, bien, ça a été plus un V. On est descendu, c'était raide, mais on est remonté assez vite. Bien, la crise de 2008-2009, moi, quand je la voyais venir, j'ai parlé d'un modèle en L, je n'étais pas le seul, on était beaucoup d'économistes à le dire, mais le L, il dure longtemps. On n'a pas rattrapé le potentiel de croissance qu'on a perdu lors de la crise de 2008-2009. Et j'ai l'impression qu'on ne le rattrapera jamais. C'est comme si on était sur un sentier de croissance, on a descendu, puis on est sur une nouvelle trajectoire. Et malheureusement, quand on regarde la situation au Québec, notre taux de croissance, il commence à plafonner dès 2013 et il n'y a rien qui nous amène à croire qu'on va dépasser le 1,5%. 1,5% de croissance économique, puis je suis quelqu'un qui croit dans la décroissance, là, mais on n'est pas dans une situation où on le fait volontairement. Là, on subit un système qui a besoin de croissance. Mais 1,5 ou moins de croissance, ça veut dire que les jeunes qui sortent sur le marché du travail, ils manquent de job. Ça veut dire que les entreprises sont incapables d'investir pour renouveler leur équipement et donc devenir plus productives. Ça veut dire que le gouvernement est pris dans une situation où la croissance, qu'on dit naturelle des dépenses du secteur public, sont supérieures à la croissance économique du Québec. Donc, c'est une situation problématique dans le moyen terme. Et cette situation-là, elle n'est pas inévitable. Elle a été provoquée, elle a été entretenue. Donc ça, c'est premier coût, c'est un coût économique. Ça nous coûte, l'austérité du Québec nous a coûté la relance. Et malheureusement, on n'est pas tout seul là-dedans, ou heureusement, on n'est pas les seuls nonos, c'est pas le dindon de la farce. Ça a coûté la reprise à l'Europe et à l'Amérique du Nord. On s'est placé dans une situation où en 2010, je revenais là-dessus tantôt, mais en 2010, en pesant sur le frein trop rapidement, on a cassé l'élan de sortie de crise dans lequel on était. Mais bon, je vais revenir là-dessus tantôt. Donc, les coûts économiques ont été, en termes de ralentissement durable de la croissance économique au Québec. Et là, je reste macro. Je ne parle pas des ménages qui se trouvent surendettés. Je ne parle pas des employeurs du secteur public qui ont perdu leur job. Je ne parle pas des entreprises qui ont fermé. Je ne parle pas des villages qui sont sur le bord de fermer parce qu'on les délaisse. Je fais mon économiste un peu plate là, par-dessus toutes ces affaires-là. Mais vous savez que derrière tout ça, il y a cette réalité très humaine-là. Ah, mais moi, je reste juste avec l'idée d'un PIB. Donc, on a une économie qui croît sous son potentiel et, en même temps, on a un secteur privé qui n'a pas été au rendez-vous. On nous a promis que le secteur privé serait au rendez-vous. On nous a promis, hein, c'était l'effet Couillard, rappelez-vous. Hein, l'effet Couillard, c'était quoi? C'était cette théorie un peu loufoque de l'austérité expansive qui a été mise en pièces par les économistes de l'FMI, d'ailleurs, en 2012-2013, dans plusieurs papiers de recherche. Mais c'était cette théorie qu'en faisant beaucoup, beaucoup d'austérité, un gouvernement était pour envoyer un signal au secteur public, au secteur privé, excusez-moi, que les impôts futurs étaient pour diminuer. Comme les impôts futurs étaient pour diminuer, les entreprises et les gens qui ont beaucoup d'argent à investir étaient pour accepter d'investir au creux de la crise, sachant que plus tard, ils pouvaient récolter le fruit de leur investissement en étant en plus moins imposés. C'était une théorie assez particulière, sur laquelle je peux revenir tantôt dans la période de questions, la théorie d'un certain Addison, mais Alessina. Mais bref, l'effet Couillard, c'était un peu ce modèle-là. Les gens autour de Couillard avaient certainement connaissaient la théorie d'Alessina. Lui, son idée, c'était, ben moi, je vais envoyer un signal que le climat économique du Québec est un climat qui s'en va vers l'assainissement des finances publiques. Et bang, comme par magie, ça va inciter les entreprises privées à venir ici à investir. On ne les a pas vus. Oui, il y a des entreprises qui sont venues ici. Il y en a une qui s'appelle Lowe's. Elle vient d'arriver. Je ne sais pas combien d'emplois qu'elle va créer, par contre, en investissant au Québec. Je n'ai pas encore... Il faudrait que je finisse mon calcul. Mais bon, puis il y a un pipeline qui va en créer 33, je pense aussi, peut-être, des emplois directs. Donc, non, on n'a pas vu d'explosion d'investissement. Quand le secteur privé n'est pas là, quand les ménages dépensent ce qu'ils ont besoin de dépenser pour vivre, puis ils ne peuvent pas dépenser plus ni moins, parce que si on dépense moins, on vit moins. Donc, on fait ce qu'on peut et nous, on soutient l'économie depuis la récession de 2007-2008. C'est grâce à nous, les ménages, et notre endettement qui continue à progresser, que l'économie québécoise tourne encore un peu. Eh bien, le gouvernement a normalement une responsabilité de dépenser, de soutenir l'activité économique. Mais les politiques ont été dans le sens contraire. Donc, un coût économique très important, juste sur le plan global de l'économie québécoise. Après ça, des coûts économiques qu'on va commencer à voir, je crois, dans les mois et les trimestres à venir, qui est rattaché à ce retrait du gouvernement de plusieurs régions. Retrait de bons emplois du secteur public, retrait d'un appui au secteur communautaire, retrait d'un appui aux agents de développement économique. Ça va se traduire par des régions qui vont devenir de plus en plus, qui vont avoir un avenir économique de plus en plus problématique. Et ça va engendrer des coûts aussi. Puis finalement, des coûts importants rattachés au non-entretien nécessaire des infrastructures compte tenu des coupes budgétaires qu'on a imposées au secteur public, en particulier en éducation. Hein, ça, je le vois dans mon université. Donc, tout ça a eu un prix. Il y a un prix organisationnel aussi. On a désorganisé notre secteur public. Cette désorganisation-là, elle a des effets internes au secteur public et des effets externes. L'effet interne le plus important, comme moi je vois, c'est une grande démotivation. Je sais pas si... Moi, je fais beaucoup de formations au milieu syndical. Devinez, j'imagine que je suis plus là qu'au conseil du patronat avec le discours que je tiens. Donc, je fais beaucoup de formations au milieu syndical et ce que je constate depuis 2 ans, c'est que les gens sont démotivés. Les gens, ils savent pas comment s'investir dans leur travail parce qu'ils ne se sentent pas reconnus. Ils voient toutes sortes de changements qui leur passent par-dessus la tête. Ils ne savent pas trop comment avoir pris sur ces changements-là. Puis, ils ont peur pour leur propre poste. Et donc, beaucoup de démotivation. Cette démotivation-là a un coût aussi pour la société et pour l'économie. Ça fait des services publics moins productifs, évidemment, des services publics qui ont de la misère. Et ça fait des gens qui sont brûlés, qui partent massivement en congé de maladie, qui prennent des retraites anticipées. Donc, on est en train d'avoir un impact immense sur le plan organisationnel. Puis, un autre impact plus pernicieux, et celui-là, ça m'a pris du temps à le comprendre, puis c'est à force de parler avec des gens plus qui sont aux différentes tables de négo dans la négociation qui vient de passer. Un des objectifs d'un gouvernement austéritaire, évidemment, c'est de comprimer les coûts. Mais ce n'est pas juste de comprimer une fois pour toutes. Un objectif important de politique d'austérité, c'est de transformer des revenus non compressibles en revenus compressibles. Un revenu non compressible, c'est une dépense sur laquelle tu n'as pas d'emprise, peu importe la conjoncture économique. Un revenu compressible, c'est que tu peux le faire varier en fonction d'une décision politique. Tu prends une décision, puis oups, ça varie. Un salaire d'un fonctionnaire, c'est une dépense non compressible. Un régime de retraite, c'est une dépense non compressible. Or, dans la négociation qui vient d'avoir lieu, il y avait tout un enjeu autour, justement, d'augmenter des postes temporaires, d'augmenter des postes précaires, de retirer certains bénéfices, de retirer, surtout au niveau des retraites, de revoir la façon dont les retraites sont calculées, pour rendre compressible des coûts qui, dans le régime actuel, ne l'est pas. Donc, ça, c'est un enjeu, c'est un effet organisationnel important, puis je pense que ça nous éclaire beaucoup sur le déplacement de Coiteux du Conseil du Trésor vers les municipalités. Je pense qu'il s'en va faire la job qu'il vient de faire avec la fonction publique. Là, il s'en va la faire avec les municipalités. Ça va être très dur pour les employés municipaux, je pense. Donc, effet organisationnel. Finalement, des effets... puis, évidemment, ça se réfléchit, ça se reflète aussi dans une perte de pouvoir syndical. Le mouvement syndical devient un mouvement qui est pris sur la défensive, qui est moins capable de proposer, qui est moins motivé à participer au mécanisme de concertation, et donc lui-même, comme acteur dans la société, perd de la présence et perd du pouvoir dans ce contexte-là. Finalement, troisième impact au niveau de la société québécoise, au niveau de la façon dont elle se comprend et comprend ses services publics, son État-providence. En fait, et ça, c'était un objectif recherché. Vous pouvez aller lire un document, il est encore disponible sur le site du ministère des Finances. Vous pouvez aller lire le document de consultation prébudgétaire préparé pour Raymond Bachand en 2010. Et c'est le document de la Révolution culturelle. Vous vous rappelez de la Révolution culturelle de Raymond Bachand? Non, c'était donc en 2010. Donc, Bachand nous prépare un premier budget d'austérité. On va passer de la stimulation économique à un premier budget d'austérité. Et il fait faire par quatre économistes. Claude Montmarquette, Pierre Fortin a participé à son grand regret aujourd'hui d'ailleurs. Pierre Fortin, Claude Montmarquette, j'oublie toujours, Godbout. Mais c'est Robert Gagné, des HEC, que j'oublie toujours. Et Robert Gagné a fait faire un rapport, un genre de rapport des sages sur l'avenir de du rapport de l'État à la société au Québec. Et là-dedans, c'est dit en toutes lettres qu'il faut changer les attentes des Québécois envers leur gouvernement. Il faut que les Québécois apprennent à se débrouiller eux-mêmes pour aller chercher une grande majorité des services qui, aujourd'hui, ils attendent de l'État, de manière à ce qu'on puisse se payer l'État auquel de manière à ce qu'on puisse avoir l'État qu'on puisse payer. Bon, c'est ça le raisonnement. Et Bachand appelait ça une révolution culturelle. Il faut, faut baisser ou diminuer les attentes des Québécois envers leur gouvernement. Et je pense que 2 ans d'austérité, c'est en train de fonctionner. C'est-à-dire que beaucoup de Québécois maintenant, même s'ils restent profondément attachés, j'étais soulagé quand j'ai vu les résultats d'un sondage de l'Institut du Nouveau Monde sur le rapport des Québécois à leur service public, de voir que les Québécois sont profondément attachés à leur service public, mais en même temps, résultat contradictoire dans le sondage, les Québécois en même temps sentent qu'ils demandent trop à l'État. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans la tête des gens, ce repositionnement de l'État dans la société ou ces nouvelles attentes diminuées qu'on a envers les services publics. Alors, ça, pour moi, c'est le prix qu'on a payé pour atteindre cet objectif d'équilibre budgétaire. Pourquoi on a fait ça? Je vais juste regarder l'heure et prendre une gorgée. Ouais. Ouais, c'est bon. Le gouvernement tient un double discours sur pourquoi on a fait ces politiques d'austérité. Il y a deux discours en même temps. Et ça dépend à qui vous parlez, ça dépend qui parle devant vous, ça dépend quel type de document vous allez lire. Vous allez trouver un premier discours qui prend la forme suivante. Il y a une récession, on commence à sortir de la récession, et là, c'est le moment où on doit donner un coup pour équilibrer notre budget. C'est un problème juste conjoncturel. Pendant la récession, nos dépenses ont dépassé nos revenus. Mais c'était nécessaire, on n'avait pas le choix, il fallait soutenir l'économie un peu quand même, pas laisser couler le capitalisme. On a fait comme tout le monde, on a dépensé au-delà de nos moyens, mais maintenant que la situation se rétablit, qu'on n'est plus en train de descendre, mais qu'on a touché le plancher, ben c'est le temps de commencer à revoir l'équilibre budgétaire et trouver une cible crédible d'atteindre de déficit zéro. C'est un discours, je dirais, de type keynésien. Il y a eu une crise. Il y a eu un déséquilibre entre nos revenus et nos dépenses, et là, c'est le temps de rétablir l'équilibre. Ça, c'est un premier discours. Ce discours-là, le gouvernement l'a tenu en 2010-2011. 2012, il a commencé à le lâcher. Pourquoi? Parce que la croissance n'était pas au rendez-vous. La croissance qui pouvait justifier, donc la reprise qui est tronquée, et la croissance qui pourrait justifier qui pourrait adoucir le retour à l'équilibre budgétaire, n'est pas au rendez-vous. Et donc, le discours change et un nouveau discours apparaît, qui est l'idée de on doit atteindre l'équilibre budgétaire parce qu'il y a une crise structurelle au Québec. Il y a un déséquilibre structurel et non pas conjoncturel entre nos revenus et nos dépenses. Il y avait besoin de tenir ce discours-là parce que la croissance, d'un côté, n'était pas au rendez-vous. Et deuxièmement, parce qu'on l'avait presque atteint, l'équilibre budgétaire, à travers les coupures qui avaient été faites. Et là, on était rendu à ne pas atteindre l'équilibre budgétaire parce qu'on faisait encore nos maudits versements au Fonds des générations. Et donc, il fallait inventer quelque chose de plus gros. Il fallait dire, non, mais il y a un problème, là. C'est pas juste depuis 2008. Non, c'est depuis, là. Depuis toujours, il y a un problème au Québec, on n'est pas capable de mettre de l'ordre dans nos finances publiques, puis là, c'est le temps, nous, les libéraux, on va le faire, puis pour de vrai cette fois-ci. Et donc, il y a un déplacement du discours vers cette idée d'une crise structurelle. Il y avait deux grandes assises à ce discours sur la crise structurelle de l'État québécois. Le premier, c'était que notre dette était hors de contrôle, que là, c'était la catastrophe, qu'on s'en allait vers le mur, qu'on était la prochaine Grèce. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, qu'on était sur le bord de la décote, là. Que là, ça chatouillait là, à Wall Street pour nous donner une décote. Puis là, bon, le problème avec ce discours-là, c'est qu'on a pu rapidement, moi j'ai été un des premiers à le faire, Pierre Fortin l'a fait aussi, on a sorti des beaux petits graphiques avec le niveau de la dette du Québec sur le PIB, puis on a pu montrer que la dette sur le PIB était stable depuis 2003, ça ne bougeait pas, puis qu'en fait, il y avait eu deux petites légères remontées depuis le déficit zéro de Lucien Bouchard, il y avait eu deux légères remontées attribuable à des changements des règles comptables au gouvernement du Québec qui avaient augmenté le niveau de la dette parce qu'on changeait la façon dont on le calculait. C'est pas grave de faire, on peut le faire, on peut être pour ou contre la réforme comptable qu'ils ont faite, mais d'une manière ou d'une autre, c'était un changement comptable. Donc, on était capable de montrer que la dette du Québec était sous contrôle, qu'on n'était pas dans une situation d'une dette qui avait un taux de croissance galopant. Que oui, la dette accroît, mais moins rapidement que l'économie québécoise. Donc, ça, c'était, mais c'était un argument extrêmement important. Deuxième argument, le choc de la vieillesse. Ça, c'était la grosse affaire. On était face à un deuxième mur, qui était le mur des baby-boomers qui prenaient leur retraite massivement, tous en même temps, puis qui étaient tous pour devenir, immédiatement après la prise de leur retraite, tous malades en même temps. Puis ils se présenteraient tous dans les hôpitaux, puis ils se mettraient à acheter des médicaments. Puis là, on prenait en témoin, regardez l'augmentation des coûts de santé. Ça n'a pas d'allure, taux de croissance de 4%, on ne peut pas se permettre ça, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, on nous montrait les courbes. On s'est mis à poser des questions sur le contenu des courbes, puis là, on a trouvé des curieuses choses. On a pu attribuer plus de 80% de l'inflation des coûts en santé à deux facteurs, médicaments, augmentation de la rémunération des médecins. Que là, on s'est dit, oups, donc c'est les pharmaceutiques puis les médecins spécialistes qui, finalement, qui sont le mur dans lequel on fonce. C'est, mais bon. Mais ces deux murs-là ont servi de levier à cette thèse de du déséquilibre structurel au Québec entre revenus et dépenses. C'est important parce que cette lecture-là ne va pas s'en aller. Le gouvernement va la ressortir quand ils vont en avoir besoin. C'est quelque chose qui va rester. Je pense que c'est des idées reçues bien implantées dans la tête des gens. C'est très difficile de défaire le mythe de la dette qui est hors de contrôle. Même quand tu montres un graphique, les gens ne te croient pas. Puis même, donc, c'est très difficile de faire ce travail-là. Et le choc du vieillissement aussi, c'est un... Parce que oui, il faut faire quelque chose. Oui, c'est vrai qu'il faut se préparer à cette population qui vieillit, mais il faut prendre acte de... donc, c'est quelque chose de on va falloir apprendre à travailler avec ces discours-là et bien les contrer. Maintenant, une autre raison pourquoi on a fait ça. Une autre explication possible de pourquoi on a fait ça. C'est plus la mienne, mais pas juste la mienne. Je ne vais pas juste parler du Québec, je vais parler de l'OCDE en général, puis je vais revenir au Québec après. En fait, je pourrais résumer ça à un titre de livre, Naomi Klein, Stratégie du choc. Et ce n'est pas juste quelque chose qu'on a fait au Québec. 2007-2008, c'est la plus grande crise que l'économie mondiale connaît depuis 1929, si on le sait. C'est une crise nouvelle par rapport aux récessions qu'on connaît précédemment, en 90 puis en 80. Ces récessions-là, on se rappelle, c'est causé par des poussées inflationnistes que des banques centrales veulent casser en faisant exploser les taux d'intérêt, ce qui a pour effet de ralentir l'activité économique, ce qui génère du chômage. En générant du chômage, on diminue les pressions sur les salaires dans le secteur privé et public. Et donc, on casse le mécanisme inflationniste qui part du fait que les travailleurs demandent des augmentations de salaire et les employeurs transfèrent les augmentations de salaire aux travailleurs par le biais d'une augmentation des prix. C'est un petit truc qu'ils ont appris à un moment donné, les années 70. Donc, vous voulez une augmentation de salaire de 5 %? Pas de problème, envoyons le fait. Les prix augmentent de 5 % tout de suite après. Ce mécanisme-là qui se met en place dans les années 70 est cassé par une première... un coup de force de la part de la Banque centrale américaine et canadienne. On a participé très bien à cet effort-là. On provoque une récession en faisant exploser les taux d'intérêt. On fait la même chose en 90. C'est deux récessions qui ont été provoquées par des politiques monétaires. La récession de 2008, c'est quelque chose de complètement nouveau pour nous. Ça remonte aux années 20, aux années 30. Par contre, c'est quelque chose qu'ont vécu les Asiatiques lors de la crise asiatique. C'est quelque chose qu'ont vécu les Russes en 1998. C'est quelque chose qu'a vécu l'Argentine en 2000. C'est quelque chose que le Mexique a vécu en 1994. C'est une crise financière qui déborde et qui se transforme en crise économique et qui provoque une récession. La différence avec les crises de 1994 à 2007, c'est que ces crises-là se passent en périphérie du cœur de l'économie mondiale. La première type, là, c'est Mexique 1994. On l'a oublié, mais il y a eu une crise financière, après ça une crise économique, 1994. Crise asiatique, 1997. Crise en Russie, 1998. Après ça, Turquie, me semble, c'est 2001. Et ça continue, puis ça se promène autour comme ça, jusqu'en 2007, où là, oups, ça touche le cœur, ça touche l'Europe et les États-Unis et le Canada. Et ça provoque... Et dans les crises précédentes, c'est toujours la même affaire qui est mise en place. Un plan de sauvetage qui vient des pays riches, qui en profite pour aller acheter des actifs. Hein, le Canada, par exemple, s'est servi de la crise du Mexique pour aller chercher beaucoup d'actifs dans le domaine bancaire mexicain. Le Canada, les banques canadiennes ont aussi beaucoup profité de la crise argentine pour aller acheter des actifs là-bas. Donc, ça permettait, les banques européennes ont utilisé la crise turque pour aller chercher beaucoup d'actifs de ce côté-là. Mais là, tout à coup, la crise est au cœur. C'est plus les banques qui, normalement, se servent des crises pour aller chercher des actifs, mais c'est elles qui sont en crise. Et donc, il reste un acteur capable de faire la différence, c'est le gouvernement. Puis on se rappelle des milliards et des trillions qui ont été pompés dans le secteur financier pour le sauver pendant ces deux années-là. Et quand la crise déborde en crise économique, on se rappelle de la rapidité avec laquelle les États sont capables de cracher de l'argent pour soutenir l'économie, sont capables non seulement de soutenir par des projets d'infrastructure, soutenir les revenus des travailleurs, des travailleuses par des injections directes par le système d'assurance-emploi, sont capables en plus de racheter des compagnies entières comme GM, de nationaliser le secteur de l'automobile comme ça. Paf, c'est fait. Alors, c'est ce moment keynésien, on l'a oublié, là, mais c'est radical, là. Ce que les États ont fait là, je vous dirais demain matin, mais oui, mais le gouvernement, il peut nationaliser. Ben non, Éric, le gouvernement ne peut pas devenir propriétaire du cœur industriel de l'économie nord-américaine. Oui, mais il l'a fait en 2009. On est en train de se débarrasser des actions de GM en ce moment au fédéral. On les a gardées très longtemps, contrairement aux Américains. Donc, cette réponse keynésienne radicale a porté fruit pour une économie, l'économie financière. Dès 2009, l'économie financière est remise de sa crise. Si vous regardez l'évolution des revenus des 1 % dès 2009, ça va bien. On peut dire que la crise se termine pour eux en 2009-2010. Et le tournant vers l'austérité, alors il y a deux interprétations. Il y a une paranoïaque et il y a une, je dirais, plus analytique. Moi, je suis plus analytique que paranoïaque, mais je vais vous donner quand même l'interprétation paranoïaque. L'interprétation paranoïaque, qui est défendue par des gens très respectables comme Stiglitz. C'est la thèse de Stiglitz que je vous donne, là. Donc, c'est, et Noémie Klein aussi, d'ailleurs, mais la thèse de Joe Stiglitz. Donc, il n'est pas quelqu'un de particulièrement radical, là. C'est quelqu'un d'un bon social-démocrate. Sous plan de l'analyse économique, plutôt un néo-keynésien ou un plutôt néoclassique, plutôt standard. Mais Stiglitz, il dit, le gouvernement a démontré que par l'intervention économique, il est capable de stabiliser les cycles du capitalisme. Il a redonné une légitimité à l'activité économique de l'État que de 80 à 2007, tous les gouvernements ont tout fait pour miner la légitimité de l'économie publique, de l'État comme acteur économique efficient. Tous les gouvernements successifs. Le néolibéralisme, c'est un long travail de sape pour nous sortir de ce réflexe keynésien qu'on a développé au 20e siècle, que l'État est capable de faire une différence dans le développement d'une économie. En deux ans, il démolit tout ça. En deux ans, cette idée-là, elle est démolie par de l'intervention efficace. Il fallait à tout prix virer de bord, changer de cap. Il fallait à tout prix, selon Stiglitz, s'éloigner de l'État interventionniste. Et donc, on s'est tourné vers l'austérité. C'est une thèse un peu paranoïaque. C'est comme si les gens avaient vraiment planifié le coup. Une autre thèse, plus, je dirais, structurelle, celle à laquelle moi j'adhère, c'est qu'effectivement, si tu es un investisseur, si tu es un financier, si tu es un médecin spécialiste, si tu es un dirigeant de grande entreprise, en 2009, c'est fini, là. Tout est réparé. Les banques ne sont plus en train de faire faillite. Les entreprises, la saignée est terminée et on reprend comme on faisait avant. Et avant, on était sur un modèle où on était en train de tenter de diminuer l'importance de l'État et donc on reprend ce programme-là. Sauf que on a une situation exceptionnelle qui s'appelle une crise. Ça permet d'accélérer le processus. D'une manière ou d'une autre, qu'on prenne la théorie de Stiglitz ou qu'on prenne une théorie plus structuraliste comme la mienne, 2010 marque un point tournant important partout, pas juste au Québec. Tout le monde, en même temps, adhère à des politiques d'austérité. Tout le monde tient exactement le même discours en termes de restructuration nécessaire des finances publiques. Et tout le monde, en même temps, provoque le même problème économique, qui est de casser la relance avant même qu'elle puisse se faire. Au Québec, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je dirais que au Québec, il y a, et c'est vraiment plus propre au Parti libéral qu'au PQ, mais quoi, peut-être qu'il y a des gens au PQ qui pensent comme ça aussi, mais c'est clair, au Parti libéral, en tout cas, c'est très clair. Le Parti libéral voit la social-démocratie québécoise comme une anomalie. Quelque chose dans le contexte nord-américain qui ne fit pas. Et il y a une volonté au Parti libéral depuis 2003, on le sait, les cartes étaient sur la table à ce moment-là, de normaliser le Québec, de faire du Québec une province comme une autre. Puis, idéalement, de faire du Québec même un État américain comme un autre. C'est quelque part entre l'Ontario puis le Minnesota, mettons, en termes de présence de l'État, en termes de participation au développement économique, en termes de taux de syndicalisation, en termes de style de système de santé, en termes de type de système d'éducation, en termes de niveau des frais de scolarité. Je peux continuer la liste, là. Il y avait une volonté de normalisation. Par contre, l'État-providence, ou la social-démocratie, fait partie de l'identité québécoise. On a arrêté d'être canadien-français à mesure que l'État québécois est devenu un État-providence. On est passé, là, je vais être grossier, là, si Gilles Gagné était ici, il me taperait sur les doigts en me disant que je brûle des étapes, mais je vais le faire quand même. On est passé du Canadien français qui regardait l'Église comme la source de sa providence au Québécois qui attendait à ce que l'État remplisse ce rôle-là. Et donc, la construction de l'identité québécoise est consubstantielle de la construction d'un État interventionniste au Québec. Et donc, s'attaquer à ça, c'est gros. Ça prend une crise si tu veux remettre ça en question. Ils n'ont pas provoqué la crise, mais c'était l'occasion rêvée. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça une révolution culturelle, par ailleurs. Donc, je vois dans le mouvement qui se met en branle à partir de 2012, un long travail de normalisation dont on est encore en train de subir ce processus-là, excusez-moi, est encore en cours. Je vais donner quelques exemples très précis dans quelques minutes, à mesure que j'arrive vers la conclusion et avant de parler d'alternatives. Une fois que je sais que je vous ai vraiment déprimé, là, pour de vrai, je vais parler un peu de... C'est bon, mais une volonté donc de normalisation au Québec. C'est un grand cycle qui a pris fin, selon moi. En Amérique du Nord, de 80 à 82, marque l'entrée dans le néolibéralisme. Regardez ce qui se passe en Ontario, regardez ce qui se passe aux États-Unis avec Reagan. Au niveau fédéral au Canada, on voit vraiment un changement de cap au niveau des politiques économiques et des politiques sociales. Le Québec demeure un cas à part. Dans toutes les autres juridictions, vous allez voir que cette période-là correspond à une période où il y a eu une attaque frontale contre le pouvoir syndical. Dans le cas de Reagan, c'est allé loin, là, il a attaqué les contrôleurs aériens, ils ont tous viré d'une shot. Au Québec, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Oui, il y a eu en 81, c'est le gouvernement provincial qui revient sur des promesses d'augmentation de salaire, oui, mais à un moment donné, il y a le sommet sur l'emploi. Le gouvernement s'assoit, en fait, pas s'assoit, mais se présente. On a une photo avec Louis Laberge, avec René Lévesque, puis avec Picard, qui était à l'époque, il me semble que c'est Picard qui était au conseil du patronat, c'était-tu? En tout cas, il me semble que c'était lui. Puis on a cette photo, puis on a l'idée qu'on va confronter la crise et la restructuration économique qui va découler de la récession de 1982 par le biais d'un certain corporatisme. On va se mettre le tripartisme, hein? Les travailleurs, les entrepreneurs ou les industriels et l'État, ensemble, on va essayer de donner un modèle de développement basé sur la concertation plutôt que le conflit. Il y a la CSN qui tient loin de ça, qui dénonce ça comme de la peste, puis finalement, en 1986, ils vont embarquer aussi. Puis on peut dire qu'on a un cycle de développement économique. C'est notre néolibéralisme à nous, mais il est timoré. Il est timoré parce qu'il est... C'est un néolibéralisme géré, hein, limité par la concertation. Puis dans cette période-là, de 82 à 2012, pour moi, elle arrête en 2012, ce cycle-là, on fait des gains importants, là. Il y en a trois qu'on a fait juste pendant la période libérale, les congés parentaux. Les CPE, l'équité salariale, c'est des gains qu'on a pu faire parce qu'on avait ce modèle-là. C'est une anomalie. Partout ailleurs en Amérique du Nord, ils n'ont pas ces modèles-là. Regardez les taux de syndicalisation, regardez les instances de concertation, regardez comment est structuré le marché du travail, regardez comment se façonnent les politiques sociales. Et ce modèle-là nous a livré des résultats intéressants. Et c'est à ce modèle-là que voulaient s'attaquer les libéraux, dès 2003. La crise leur donne l'occasion de le faire. Et ce qui se passe depuis, alors 2012, c'est le coup d'envoi avec la provocation d'un conflit avec les étudiants. C'est un conflit cherché, là. Ils ont fait exprès, c'est normal. Tu dis, on va faire exploser les frais de scolarité, on le sait. Je me rappelle, moi, ma première grève contre les frais de scolarité, je l'ai faite comme étudiant en 1986, je pense. Donc, on le sait qu'au Québec, tu touches aux frais de scolarité, le mouvement étudiant sort dans la rue. Donc, ils cherchaient ce conflit-là. Ils avaient choisi, malheureusement, je pense, pour eux, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une réaction aussi vive, mais c'est un conflit cherché. Et depuis, c'est comme ça qu'on gouverne, en provoquant conflit après conflit. On s'en va vers un gros conflit dans le monde municipal. Et par ce biais, on est en train de normaliser. J'arrive à la conclusion. Parce que ça fait une heure presque que je parle, mais oui, c'est ça. Mais j'arrive à quel avenir pour l'austérité. Mais donc, pour moi, l'austérité au Québec, l'austérie, le pays qu'on peut appeler l'austérie, c'est un pays dans lequel on tente de normaliser, d'intégrer le Québec dans une nord-américanité très différente de ce qui a constitué la société québécoise comme type de rapport de l'État à la société et à l'économie. Un dernier élément, c'est pour ça que pour moi, la vente de Rona, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait dans le prolongement de ce modèle-là. La dernière vague, je crois, la dernière partie de l'offensive, c'est l'empressement avec lequel le gouvernement provincial, mais aussi fédéral, mais surtout provincial, adhère au mouvement de ces nouveaux traités de libre-échange, comme le traité transpacifique et le traité avec l'Europe. Qui, on sait, ces traités-là visent une affaire très spécifique, qui est d'ouvrir nos marchés publics aux entreprises européennes. C'est ça l'objectif. Parce que c'est ce qui reste de notre modèle québécois, entre guillemets, c'est que nos marchés publics sont pour le moment très fermés. Et là, l'idée, c'est de les ouvrir à ces grandes multinationales du service public qui sont installées aux États-Unis et en Europe. Alors, quel avenir pour l'austérité? Puis comment on peut, nous, la contester? Je pense que il y a une conjoncture économique durable dans laquelle on a des taux de croissance très faibles. On parle beaucoup de stagnation séculaire, c'est un autre objet, moi, qui m'intéresse beaucoup, mais donc je pense qu'il faut, se dire que la conjoncture de croissance lente est là pour rester. En même temps, un modèle de développement axé sur l'ouverture économique ne va pas donner des fruits intéressants, puisque le ralentissement de la croissance, il est mondial, et donc ce n'est plus une tarte qui s'élargit. Maintenant, l'ouverture économique, c'est tout simplement une tarte où on peut changer la taille des morceaux. La tarte, elle grossit plus. La mondialisation comme expansion de l'économie mondiale, c'est un cycle qui vient de se terminer pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je peux revenir dans la période des questions. Et donc, un gouvernement qui mise sur l'ouverture économique pour stimuler la croissance au Québec, il ne va pas pouvoir livrer des marchandises. Et c'est là où le gouvernement libéral actuel est très faible. C'est que finalement, c'est un gouvernement qui a peu à proposer en termes de développement au Québec. Concrètement, là, il a peu à proposer. Et ça le rend très vulnérable de ce côté-là. Sortir de la conjoncture de l'austérité? Il y a deux approches possibles. Il y a l'approche de la confrontation, de continuer à dénoncer les effets de l'austérité, de dire, de continuer, même si le Front commun a réglé, de continuer sur la lancée, de dire, c'est une stratégie qui, selon moi, n'est pas peut-être la plus, je ne sais pas, je suis très ambivalent vis-à-vis de cette stratégie-là. Je me demande si une stratégie de biais ne serait pas plus intéressante, une mobilisation autour des enjeux de développement économique, de lier développement économique et transition écologique à justice sociale, d'arriver avec une vision radicalement différente du développement du Québec et de dire, chers libéraux, M. Couillard, je suis d'accord avec vous, il faut que le modèle québécois change. On va le changer. Mais ce n'est pas par une normalisation par le bas, c'est plutôt par un développement par le haut. Puis voici une vision de ce que cette transformation-là. Voici une vision de cette transformation-là. Donc, pour moi, je crois, en tout cas, c'est la phase de lutte contre l'austérité c'est une phase qui, selon moi, arrive, telle qu'elle, frontalement, arrive à son terme. Et qu'on doit commencer une nouvelle phase de lutte sociale, de mobilisation sociale, autour d'enjeux de développement économique et de transition écologique. On doit, parce que là, ils sont vulnérables. Et là, on est capable peut-être d'accrocher le monde et de les embarquer avec nous dans la lutte contre la poursuite de cette volonté de normalisation du Québec. C'est vraiment là où je suis rendu dans mes réflexions. De continuer à mesurer, à prendre acte de ce que l'austérité implique, c'est important. De continuer à dénoncer les effets, mais de déplacer, je pense, d'aller vers une offensive plutôt qu'une défensive. Moi, ça serait ma perspective. Pour conclure, alors l'austérie, c'est quoi? Ça a été une aventure de 2 ans qui nous a permis de mettre un mot sur un processus, je dirais, beaucoup plus profond qui vise à transformer l'État québécois et la société québécoise. Ça nous a permis de comprendre une nouvelle alliance qui s'est créée, une nouvelle assise qui s'est créée, un parti politique qui finalement s'est détaché de beaucoup de ses alliés naturels pour se replier sur une base très étroite. Ça nous a permis d'apprendre le conflit. C'est nouveau pour la société québécoise. Ça faisait longtemps, ça remonte aux années 70, qu'on s'habitue au conflit social. Ça nous a appris à comprendre que finalement, on était pour devoir vivre une période de conflit importante. Et en même temps, ça nous force, je crois, à refuser une bataille pour le statu quo et commencer à lutter pour une transformation du Québec, mais dans un sens complètement différent de ce qui nous est proposé. Et ça, je le vois dans le mouvement syndical en particulier, c'est de plus en plus évident pour les militants à la base, et ça brasse les certitudes, mais je pense que ça fait du bien, de ce changement d'orientation et ce changement d'orientation des luttes sociales. J'arrêterai sur ces idées-là.